Voilà, bonjour à tous. On est maintenant en direct ce dimanche 13 septembre pour vivre un temps de communion, un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on se retrouve. Alors, ceux qui êtes derrière votre écran, vous ne le voyez pas beaucoup, mais on a beaucoup de personnes qui sont là avec nous ce matin, qui ont le masque sur, c'est sûr, mais on voit les yeux qui se plissent quand ils sourient. Donc, il y a déjà quelque chose de très positif. Et je crois qu'on va vivre quelque chose de bon ce matin. Alors, à tous ceux qui sont dans la salle, est-ce qu'on peut faire un signe à nos internautes en applaudissant bien fort et en disant « on est content d'être ensemble ». Et à vous les internautes, vous pouvez applaudir chez vous pour dire que vous êtes contents avec nous, mais on ne l'entendra pas. Mais on sera quand même contents d'être avec vous. En tout cas, je crois que ce matin, Dieu a un rendez-vous divin qu'il nous a fixé, dans lequel il veut nous parler, et je crois que Dieu va nous parler. Mais le seul désir qu'on a besoin d'avoir, c'est de dire « Seigneur, je veux que mon cœur soit prêt. Que mon cœur soit comme cette terre malléable dans laquelle tu vas pouvoir planter une graine et que cette graine puisse grandir. » Et pour moi, pour nous, pour l'équipe pastorale, le désir de nos cœurs, c'est ça. « Seigneur, que ma terre ce matin soit prête à recevoir ce que toi tu as à donner. Que cette eau divine qui vient d'en haut puisse couler sur nos vies. Que cette parole puisse grandir, puisse pousser et que ma vie soit transformée par l'impact du message de l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai faim et soif d'entendre ce que Dieu a à me dire. Alors j'aimerais qu'on puisse simplement dire ce matin, mon cœur est prêt à recevoir ce message. Je vous inviterai à fermer les yeux, on va prier à nouveau et on va simplement se laisser conduire. Seigneur, ce matin, c'est avec tellement de joie qu'on est dans ta présence. Tu connais chaque personne qui est derrière son écran. Tu sais où il y a des blocages, tu sais où il y a des inquiétudes et des doutes. Tu sais où il y a des souffrances, où il y a des choses qui sont comme bloquées. Et ma prière, c'est que ce matin, chacun d'entre nous ici puisse expérimenter la présence de Dieu, celle qui renouvelle, qui encourage et qui porte. Je te prie pour l'équipe de louanges, pour chaque membre de l'équipe, afin qu'il soit encore conduit et dirigé par toi. Je te prie pour la prédication de la parole. Je te prie pour la direction de ce culte. Seigneur, nous croyons que ce matin, tu es là, tu es présent et tu veux nous faire du bien parce que c'est dans ta nature de nous parler, de nous nourrir encore. Ce matin, on est là devant toi. Viens, parle à nos cœurs, nourris-nous. Seigneur, bénis chaque personne qui est là et qu'ensemble on puisse dire oui, ce matin on a vécu quelque chose de différent parce que tu as été là, parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci pour ta présence au milieu de nous, que ton nom soit béni et à toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, amen.
Amen. Alors je sais qu'ici ils sont réveillés, j'espère que derrière l'écran vous êtes réveillés. Je ne sais pas si vous le savez, mais le 13 septembre 2020, c'est une journée unique, vous le savez ? Ouais, elles sont toutes uniques en fait les journées. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas porter une louange habituelle, mais on va vraiment ouvrir son cœur ce matin tous ensemble pour louer et adorer le Seigneur. Vous êtes prêts ? Amen. Dieu est admirable. Alors frappe dans tes mains ce matin, vraiment. Exprime ta joie au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui est vrai, au Dieu qui est vivant. Amen.
Supreme autorité.
louanges et l'adoration tous ensemble. On ne s'attend pas, mais vraiment que devant Dieu, on dise oui Seigneur, tu es saint. Et ce matin, nous voulons ensemble te louer, ensemble t'adorer, ensemble t'apporter notre reconnaissance. Parce que tu es Dieu, parce que tu as donné ton Fils unique à la croix pour effacer notre dette, pour enlever nos péchés. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment t'apporter notre louange, notre reconnaissance. Nous reconnaissons que tu es un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu de l'impossible. Et nous te louons ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à toi.
Merci pour ta gloire, merci pour ta sainteté, merci pour ta toute puissance. Seigneur, tu as tout accompli pour nous, tu as tout porté pour nous. Merci pour ton immense bonté à notre égard, merci parce que nous pouvons avancer en toute confiance avec toi. Chaque jour tu es là, chaque jour tu nous conduis, chaque jour tu renouvelles, Seigneur, tes bontés envers nous. Merci pour ta grâce, tout simplement, merci parce que, Seigneur, nous avons cette assurance que tu seras avec nous jusqu'au bout, Seigneur.
Sauver mon âme à celui qui m'a ouvert ses bras.
sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais.
Amen, Seigneur. Gloire à toi, Père, pour ces instants. Gloire à toi, mon Dieu, pour ton amour. Gloire à toi, Père, parce que c'est vrai, tu nous as sauvés. Seigneur, et tu nous sauves encore jour après jour. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
Tu assistes à ce culte et tu es là ce matin. Il n'y a plus de goût de vivre en toi. Et le Seigneur te dit ce matin qu'il est le Dieu de la vie et de la joie. T'invite ce matin à lui faire confiance. Les situations de ta vie t'accaparent. Et tu ne sais plus où tourner la tête. Tu n'as plus le goût de vivre. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il est ton Dieu. Et qu'il est le Dieu de la vie. Il a une vie prévue pour toi. Il a des bonnes choses en réserve pour toi, mais ce matin, il t'invite peut-être à déverser ton cœur devant lui, peut-être à exprimer, à pleurer toutes ces choses qui sont là sur ton cœur. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie et il est avec toi ce matin. Mets ta confiance en lui, te dit ton Dieu ce matin.
Je ne voudrais pas qu'on passe à côté de ce moment sans pouvoir répondre à ce qui a été partagé. Ce matin, on peut prendre un temps où on se pose et on analyse ce qu'on vient d'entendre. Parfois, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre, mais le plus grand danger, c'est de mettre de côté la parole que Dieu nous donne. Et ce matin, peut-être c'est ton cas, tu te sens touché, impacté par cette parole. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Je voudrais qu'on puisse se laisser conduire, se laisser diriger. Et dire, mais Seigneur, je suis cette personne, j'ai perdu le goût de vivre. J'ai besoin de découvrir maintenant la vie. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité afin que tu aies la vie et une vie en abondance. Et ce matin, est-ce qu'on pourrait se mettre debout ensemble? Peut-être ça ne vous concerne pas, mais ça concerne celui qui est à votre gauche et à votre droite. Ça concerne celui qui est derrière son écran. Et on pourrait se mettre ensemble debout et dire, Seigneur, on a besoin que ta vie se manifeste dans nos cœurs et dans nos vies pleinement. Et j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble, qu'on puisse élever la voix tous ensemble, qu'on puisse prendre position spirituellement et dire, Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer ce matin. J'ai besoin d'avoir un cœur à cœur avec toi. J'ai besoin que tu viennes travailler ma vie, parce que quand tu fais ce pas de foi, Dieu honore ta foi. Dieu sait, Dieu est présent là et il a une parole pour toi. Seigneur, on est là réunis avec ton église. Seigneur, on est tous limités, mais tu ne l'es pas. C'est quand on est faible que toi, ta puissance peut s'accomplir. Ce matin, on a besoin de rencontrer le Dieu de la vie, celui qui a dit à la mort qu'elle n'avait aucun pouvoir, mais celui qui est vivant encore aujourd'hui. Je vais prier pour chaque personne qui est là ce matin, qui sent dans son cœur comme il n'a plus envie d'aller plus loin. Seigneur, ce matin, viens renouveler ce cœur abattu, viens restaurer ce cœur qui est blessé. Toi seul en as les capacités. Et Seigneur, nous sommes devant toi simplement avec la foi dans le cœur. Seigneur, bien limité, mais rempli de foi, de savoir que tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Nous voulons dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Seigneur, nous voulons proclamer que tu es notre Dieu ce matin. C'est à celui qui a sauvé mon âme. Je chanterai gloire, je veux dire, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon être, je veux te donner ma vie à nouveau. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce rendez-vous. Seigneur, je veux vraiment qu'on soit prêt devant toi à recevoir ta parole. Alléluia, Jésus. On pourrait reprendre ce chant à celui qui a sauvé mon âme. Juste le reprendre ensemble et dire, Seigneur, je t'offre tout. Je t'offre ma vie. Seigneur, je veux saisir cette parole. Alléluia, Jésus.
De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouver en Christ. Je vis ton amour à jamais.
Je crois que ce sont des paroles que nous venons d'entendre qui sont plus que simplement un chant qu'on chante par habitude. Et je ne voudrais pas qu'on vienne, et Anne nous l'a dit dès le début, par habitude dans nos cultes, mais qu'on vienne dans le désir et la soif que Dieu nous parle. Et je sais que ici, si vous êtes venu ce matin, si vous avez fait l'effort, si vous êtes levé ce matin, même quitte à prendre le masque et dire ça va être peut-être compliqué, c'est parce que vous savez que Dieu veut vous parler. Amen. Et c'est avec beaucoup de joie et un tel honneur d'être ensemble ce matin, de pouvoir louer et pouvoir adorer Dieu ce matin parce qu'il est là, présent. Amen. Vous allez bien? Amen. Et je crois que c'est que le début. Dieu nous a déjà parlé et Dieu va encore nous parler à travers le message. Et j'aimerais simplement, avant de laisser la place à Raymond Pierre, pouvoir vous partager quelques annonces. Vous dire que vous pouvez toujours nous contacter via l'adresse mail contact@epi-strasbourg.eu ou le numéro de téléphone qui va s'afficher en bas de l'écran. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez nous contacter, on est là pour prendre du temps avec vous. Et vous dire aussi que sur le site epi-strasbourg.eu, on a toutes les informations du culte. Vous avez la possibilité de revoir les cultes en direct, vous avez la possibilité d'avoir les informations de ce qui se passe dans la semaine. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, vous pouvez nous contacter par ce moyen-là également. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a rencontré le conseil d'administration il y a 2 semaines maintenant et quelques décisions ont été prises, dont la décision que nous avons prise, c'est de reprendre la plupart des activités petit à petit, mais dans le respect des gestes barrières. Et beaucoup de questions ont été posées par rapport à l'épisode, par rapport au travail parmi les enfants, quand est-ce qu'on va pouvoir enfin les accueillir. Et on s'est rencontrés avec le staff épisode, et je les remercie pour tout le travail qu'ils font, qui préparent derrière, parce qu'ils sont là, ils bossent. Et on s'est retrouvés pour préparer une rencontre le 4 octobre. On sera ici, puis on ira dans un parc pour avoir un temps de culte ensemble avec les moniteurs, avec l'équipe des enfants. Et vous allez recevoir très bientôt un mail. Xavier, je crois que c'est même déjà fait, le mail aux parents pour préparer l'inscription. Enfin bref, toutes les informations, vous allez les recevoir. Si, pour une raison ou une autre, vous voulez inscrire votre enfant, que vous ne recevez pas vos mails, n'hésitez pas à nous transmettre vos informations et on s'occupera de les transmettre directement au staff épisode. Donc oui, on n'oublie pas les enfants, parce que si vous saviez comme on les aime, et comme c'est leur place au milieu de nous, mais on veut les protéger. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, super. J'ai 2-3 amens, mais je sais que vous êtes d'accord. On a également eu l'occasion de rencontrer les groupes de maison cette semaine, les responsables des groupes de maison. Certains d'entre vous en font partie et on aimerait que ça puisse repartir, le travail parmi les groupes de maison. Et simplement, on leur a expliqué qu'on était OK pour la reprise des groupes de maison, mais dans le respect des gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains, le masque et puis la distanciation, c'est surtout ça. C'est pour cela que les groupes qui sont plus de 10 personnes, on a encouragé vivement à ce que ce soit non pas un seul groupe, mais peut-être 2 fois dans la semaine s'il le faut, pour pouvoir accueillir le maximum de personnes. Mais si vous faites partie d'un groupe de maison, n'hésitez pas à recontacter votre leader, il sera heureux de vous accueillir et de passer du temps avec vous. Si vous souhaitez rejoindre un groupe de maison, parce que y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, vous aimeriez avoir du contact plus proche, et on croit dans les groupes de maison, alors n'hésitez pas à nous contacter au secrétariat et on vous redirigera vers le groupe de maison le plus proche de chez vous, celui qui est dans un environnement dans lequel vous n'avez pas trop à vous déplacer pour être en contact avec d'autres croyants de l'Église. La prochaine formation baptême va démarrer le mercredi 16 septembre de 19h à 20h15. Alors, si vous êtes candidat au baptême, bah, n'hésitez pas à passer encore un coup de fil au secrétariat. On va avoir beaucoup de coups de téléphone, je le crois, cette semaine. Mais n'hésitez pas à nous appeler. On prendra un rendez-vous pour avoir un entretien pastoral et ensuite, on pourra vous diriger vers un temps de formation. Je rappelle également que les cours ne sont pas exclusivement réservés à la formation baptême, mais aussi sont des cours de disciples dans lesquels vous pouvez partager, discuter, échanger avec des responsables de l'Église. Et c'est toujours l'occasion de passer un temps béni. Une information importante, l'Assemblée Générale. Comme vous savez, chaque association est obligée d'avoir un temps d'Assemblée Générale pour la présentation des comptes, mais pour aussi des informations diverses. Et elle aura lieu donc le dimanche 20 septembre à l'issue du culte, aux alentours de 10h45-11h, en fonction de l'avancée du culte. Ce qui explique que nous allons avoir notre culte normal, donc à tous les internautes, venez quand même dimanche, connectez-vous dimanche prochain, puisqu'on sera en ligne jusqu'à à peu près 10h45, puis on coupera le direct et on passera sur l'Assemblée Générale. Pour tous les internautes, si vous ne pouvez pas être avec nous, et pour ceux qui sont là aussi, peut-être que vous ne savez pas comment venir et c'est compliqué pour vous dimanche prochain, on a mis en place un système Zoom. C'est une visioconférence dans laquelle vous pouvez vous inscrire et nous rejoindre pendant l'Assemblée Générale. Vous serez dans les mêmes conditions que les gens qui sont assis dans la salle, mais vous serez chez vous en train de suivre l'Assemblée Générale. Bien évidemment, on préfère vous voir en direct. Maintenant, on peut comprendre aussi que chacun ait cette liberté de rester chez soi, mais de pouvoir quand même suivre, puisque nous allons parler de sujets importants en termes de budget, de rapport mural, mais aussi du projet bâtiment, et qu'on puisse communiquer et vous communiquer où on en est avec le conseil d'administration, le conseil d'anciens et l'équipe pastorale. Donc, dimanche 20 septembre, si vous souhaitez venir en Zoom, envoyez-nous un mail, contact@epi-strasbourg.eu, et on vous enverra directement le lien pour vous connecter. Enfin, j'aimerais... j'ai encore deux annonces. La réunion de prière aura bien lieu jeudi 17 septembre, donc jeudi prochain à 19h15, et on va la faire ici dans ce lieu pour garder les distanciations. Donc retenez bien cette date, si vous voulez passer du temps à prier, vous avez une soirée à consacrer, je pense qu'il y a des enjeux qui sont là, il y a des choses qui sont importantes qu'on doit vivre ensemble. Alors jeudi 17 septembre à 19h15, on vivra des temps dans la présence de Dieu, où Dieu va encore nous parler, je le crois. Et merci pour le « Amen ». Est-ce que vous croyez dans la puissance de la prière ? Amen. Amen, ça c'est chouette, c'est encourageant. J'aimerais terminer mes annonces en vous parlant d'un ciné-débat qui aura lieu le samedi 26 septembre 2020 à 19h45 au cinéma Vox de Strasbourg. C'est un ciné-débat qui va nous présenter le film « Avez-vous la foi ?». Et pour cela, j'aimerais simplement vous passer la bande-annonce et je reviens après pour quelques explications sur comment rejoindre ce ciné-débat. Je vous laisse regarder la bande-annonce du film.
Vous croyez à la croix du Christ ?
Je suis pasteur, donc.
Si vous avez la foi, alors la question est : qu'est-ce que vous allez en faire ?
Que veut dire exactement avoir la foi ?
C'est savoir pardonner, c'est savoir se repentir et aimer sans condition.
Et que faisait Dieu le soir où on a perdu Kathleen ?
C'est pas parce qu'on se retrouve à la rue que je suis une mauvaise maman.
D'après ce que je vois, qu'on la sauve ou pas, elle s'en fiche.
Comment veux-tu que je lui tourne le dos ?
Je te dis pas de faire ça non plus. C'est un miracle.
Avec la science, il n'y a pas de miracle. C'est moi qui sauve ses vies. Le mérite me revient.
Je ne m'excuserai pas d'avoir transmis la parole divine à un homme mourant.
Cette croix va vous coûter cher.
Tu es sur le point de tout foutre en l'air.
Je n'ai pas le choix. Tu sais ce qu'on a à faire. Après ça, tout va changer pour nous.
Arrêtez, police !
Je suis passé par là. Vous devez prendre la décision de faire le premier pas qui changera votre vie.
Un jour, on m'a demandé si on vous accusait d'être chrétien. Y aurait-il assez de preuves pour vous condamner ?
Alors tu crois en Jésus ?
Je crois en lui. Il y a tout un monde là-dehors, des gens qui ont besoin qu'on les aide.
Prenez votre croix. Puisse cette croix vous rappeler à tous le merveilleux présent que le Christ vous a offert. Cela doit nous inspirer
pour vivre nos vies comme Jésus a vécu la sienne.
Tu vois, maman, Dieu nous aime réellement.
Tu as raison, ma chérie.
Voilà, donc si vous souhaitez participer à ce ciné-débat, je vous rappelle que c'est le samedi 26/09/2020 à 19h45 au cinéma Vox de Strasbourg et vous pouvez vous inscrire sur le site du cinéma Vox de Strasbourg et ce sera en présence de Christian Ruiz, l'organisateur de la Marche pour Jésus de Strasbourg. Vous êtes les bienvenus pour un temps de partage et je vous rappelle que lors de cet événement, tous les gestes barrières seront respectés pour que vous soyez dans des bonnes conditions. Ça va pour les annonces? Oui? Vous êtes toujours là? Super, je vous invite à fermer les yeux, on va prier, on va vraiment demander à Dieu de préparer nos cœurs parce que je crois qu'on a un message à recevoir de la part de Dieu sur ce que Dieu a déposé sur le cœur du pasteur Raymond Pierre. Seigneur, merci pour cette organisation, merci pour ce qu'on a déjà vécu à travers la louange, l'adoration. Seigneur, maintenant je te prie pour chaque cœur qui est là, afin que ta parole vienne vraiment percuter les vies, vienne encourager les cœurs. Seigneur, nous croyons que ce matin, tu vas nous parler, tu vas nous dire quelque chose. Et à travers cette étude qu'on va commencer, je te prie vraiment de nous conduire. Merci pour chaque personne qui est là. Merci pour tes bénédictions et ta présence au milieu de nous. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen.
Amen, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, il y a quelques-uns qui vont bien. Les internautes, est-ce que vous allez bien? J'espère. Ce matin, on est vraiment heureux avec l'équipe pastorale de vous présenter une nouvelle série. Ce sera notre série d'automne, 7 messages. Et le titre, c'est 7 signes pour stimuler notre foi. Alors, est-ce qu'un pasteur a le droit de dire qu'il est excité par ce qui va se passer pendant les 7 prochains messages sur cette série? Moi, je le crois parce que je crois qu'on a un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et je crois que Dieu veut agir avec nous ici à l'EPI. Il veut encore nous encourager à entrer, à se saisir de cette vie de foi, à nous stimuler, à nous amener plus loin avec lui, parce que je crois que le temps des miracles n'a pas cessé. Je crois qu'au travers de tout ce qu'on peut vivre en ce moment, Dieu veut encore agir, Dieu veut utiliser son Église, Dieu veut se servir, Dieu veut se manifester encore pour notre société, et ça va passer au travers de nous. Amen. Alors, période de rentrée scolaire, on débute cette nouvelle série. Et c'est vrai que tout ce qu'on vient de traverser ces derniers mois ont pu être éprouvants, déstabilisants. Et plus que jamais, je crois que nous avons besoin de vitamines pour alimenter notre vie de foi. Et un des évangiles, celui de Jean, s'est donné justement pour but principal de le faire. Jean a choisi de sélectionner 7 miracles qui se situent entre le chapitre 2 et le chapitre 12 de son évangile. Et Jean a appelé ces miracles des signes pour démontrer que non seulement Jésus est vraiment le Fils de Dieu, mais également pour que cela produise et développe la foi en nous. Cette série, elle est donc faite pour chacun d'entre nous. Que nous soyons nouveaux, que nous nous posions des questions à propos du christianisme, ou que nous soyons des vieux baroudeurs de l'Évangile, des chrétiens de longue date, nous voulons prendre ces quelques semaines pour nous pencher sur les différents signes que Jean a mis en évidence dans son évangile afin de bâtir, de construire ou encore solidifier notre confiance en Jésus. En Jean 20, versets 30 à 31, Jean explique la raison des signes qu'il a communiqués dans son livre. Et il dit la chose suivante, « Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. » Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Alléluia. Pourquoi Jean a-t-il employé ce mot « signe » plutôt que le mot « miracle » comme Matthieu, Marc et Luc ont pu le faire dans les autres évangiles? Le terme « signe » vient du grec « semeion » qui signifie « signe », une marque et un témoignage. Ces 7 miracles que nous allons voir sont là comme une marque, quelque chose qui vient s'imprimer dans notre esprit. Vous savez, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, on utilise souvent l'expression « j'ai été marqué par ce que j'ai vécu ». Ces signes sont là pour déposer une empreinte sur notre vie. Elles témoignent de qui est Jésus. Ces 7 signes sont comme des flèches, comme des panneaux indicateurs qui pointent vers la personne de Jésus. ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire et de produire dans nos vies. Ces signes révèlent la gloire de Jésus, et on en parlera tout à l'heure dans le message. Lorsque Jean dit que ces signes ont été donnés pour que nous croyions que Jésus est le Messie, comme il le fait ailleurs dans son livre, les termes grecs et les temps utilisés montrent qu'il vise deux buts. Celui de produire la foi chez de nouvelles personnes, mais également d'édifier, de bâtir celle de ceux qui croient déjà. Et notre désir, l'équipe pastorale, c'est vraiment qu'au travers de cette série, plusieurs découvrent la foi en Jésus, mais aussi d'encourager les croyants à persévérer dans leur confiance en Jésus, le Messie, celui qui nous libère, celui qui est le Fils de Dieu. Amen. Sur ces mots d'introduction qu'on vient de voir, on va se pencher maintenant sur le premier signe que Jean nous communique dans son évangile, l'eau changée en vin. Et j'imagine discerner de la joie chez les vignerons au milieu de nous et chez les amateurs de vin. Est-ce que je peux entendre un amen pour ceux qui aiment le bon vin ici? Il y en a quelques-uns, je vois des têtes qui sourient un petit peu. Il y en a. Est-ce que je peux le dire dans l'église ou pas? On aime bien le vin, avec modération. Premier point ce matin que je veux soulever, c'est que ce signe montre que Jésus s'intéresse à nos vies et veut notre bonheur. On commence la lecture dans Jean 2, versets 1 à 3. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Alors, notre histoire débute dans un mariage, un moment de fête où Marie et Jésus et ses disciples sont invités. Alors, le fait que Marie soit invitée à cette noce peut laisser penser qu'il s'agissait d'un mariage de quelqu'un de la famille ou d'un ami proche. Il semble même que Marie soit impliquée dans l'organisation de ce mariage, puisque c'est elle qui va venir intervenir auprès de Jésus pour le manque de vin. Et je crois qu'il est important pour nous de comprendre que dans la culture de l'époque, la cérémonie de mariage, elle pouvait s'étendre sur une semaine. Et la charge financière du mariage reposait sur le marié. Le manque de quoi que ce soit, ça exposait le marié à la honte. Les théologiens soulignent même que, même certaines données concernant les mariages de l'époque soulignent que les proches de l'épouse auraient pu engager des poursuites judiciaires contre le mari s'il était venu à manquer quelque chose. Imaginez ça aujourd'hui. Vous êtes heureux, vous invitez tous vos amis, vos proches pour votre mariage, et là vous oubliez les gâteaux apéro, et qu'est-ce qui se passe? Ils déposent plainte contre vous. Les gens que vous avez invités gracieusement. Voilà un petit peu le contexte. Alors, il est aussi important de souligner que le vin dont il est question ici, c'est pas du simple jus de raisin. La tradition agricole du pays était avant tout viticole. Mais il est vrai que dans l'Antiquité, on réduisait le taux d'alcool en coupant le vin avec de l'eau par la jonction de 2/3 à 9/10 d'eau. Mais ce qui est intéressant ici pour moi, c'est que le premier miracle de Jésus dans cet évangile vient déstabiliser la bien-pensance religieuse. Certains pensent qu'être chrétien, c'est vivre sous plein de règles qui nous emprisonnent, ne fais pas ci, t'as pas le droit de faire ça, etc. Une vie triste où rien se passe. Vous savez, Jésus dans notre vie ne signifie pas une privation de liberté ou de nous empêcher de vivre la vraie vie, bien au contraire. Vous savez, le manque de vin, ça signifiait fin de la fête, fin de la soirée, on remballe tout, tout le monde rentre chez soi. Pourtant, Jésus va intervenir pour que les gens puissent continuer à se réjouir pour les mariés, pour qu'ils puissent continuer à faire la fête, à profiter de ce moment-là. Et j'ai envie de vous dire ce matin, non, la vie avec Jésus, c'est pas monotone, la vie avec Jésus, c'est pas ennuyeux. Quelqu'un devrait dire amen. Vous êtes sûr? Jésus mesurait la difficulté et la honte qui allait s'abattre sur le jeune marié. Et on voit qu'il ne l'a pas laissé à son triste sort. Mais comme on va le voir, il est intervenu pour le besoin de l'homme. Vous savez, pour notre Dieu, chaque vie, chaque situation de vie compte. Dans mon ancien métier, j'ai déjà entendu le patron dire « La vie privée des fonctionnaires n'est pas ma priorité ». Ça, je l'ai déjà entendu, pour des situations qui étaient un peu compliquées. Et bien, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas du tout pareil avec notre Dieu. Ce n'est pas pareil avec Jésus. On peut traverser des choses. Jésus s'en soucie. Jésus s'y intéresse. Nous ne sommes pas un vulgaire numéro dans le registre de Dieu. Nous avons de la valeur à ses yeux. Il est le Dieu de la joie. Il est le Dieu de la vie. Il intervient justement pour nous montrer l'importance de la vraie vie et de la vraie joie. Vous savez, une vie n'est réussie que si son auteur en est au centre. Et qui est l'auteur de la vie ? C'est Jésus-Christ. On peut vivre cette vraie vie avec lui. Deuxième point ce matin, c'est que ce signe nous enseigne ce qu'est être disciple de Jésus. On continue la lecture au verset 4. Jésus répond à Marie et Jésus répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Elle est un peu bizarre cette histoire. Alors que Marie s'adresse à son fils pour lui signaler un problème, sa réponse, elle est étrange. Et on va s'arrêter sur les différentes parties de sa réponse. Mais j'ai déjà envie de vous dire que moi, si je m'étais aventuré à répondre à ma mère « Que veux-tu, femme ?» lorsqu'elle me demandait de ranger ma chambre, je peux vous dire que j'aurais passé un sale quart d'heure. Cette réponse de Jésus, elle est surprenante, mais patente en fait. Elle n'est pas tant en fait surprenante que ça. La tradition veut que Marie soit déjà veuve à cette époque. En effet, on ne voit plus Joseph à partir de l'épisode du temple quand Jésus a 12 ans dans les évangiles. Jésus était non seulement connu comme le fils du charpentier, mais on voit aussi dans Marc 6:3 qu'il était connu comme un charpentier en tant que tel. Il semble donc que le travail de Jésus faisait vivre la famille. Marie, en tant que veuve, elle s'appuyait sur Jésus qui était son fils aîné. C'était lui qui était capable de pourvoir aux besoins de la famille. Et on voit que Marie, elle croit que Jésus est capable d'intervenir dans cette situation de manque de vin. Elle croit qu'il est capable d'intervenir surnaturellement. Mais elle s'adresse à lui comme à son fils, sur qui elle a une autorité. Et non comme si elle s'adressait au fils de Dieu qu'elle est appelée à suivre. La réponse de Jésus, gounaï, en traduisant femme, n'est pas empreinte d'affection et ça ne correspond pas à la manière d'un fils de répondre à sa mère. Et lorsque Jésus va lui dire « Mais que me veux-tu ?», Jésus explique que son rôle s'affranchit de tout conseil, de tout programme ou de toute manipulation. La seule chose qui dirige et qui conduit Jésus dans sa mission sur terre, c'était la volonté de son Père, pas quelqu'un d'autre. Alors on peut imaginer que ça a pu être difficile pour Marie d'entendre cela. Vous imaginez, c'est elle qui l'a mis au monde. Je ne suis pas une maman, mais j'essaye de me mettre dans la peau des femmes. Vous avez mis au monde un enfant, vous avez pris soin de lui. Et puis là, il vous dit, que veux-tu, femme ? Que me veux-tu, femme ? Vous savez, pour Jésus, ce ne sont pas ses liens familiaux qui dictent sa conduite, mais sa mission divine. Et je crois qu'il y a une leçon importante. Merci Seigneur pour nos familles. Et vous savez, on a déjà remarqué dans des églises parfois qu'il y a des coalitions familiales lorsqu'on n'est pas d'accord avec certaines décisions, même si on sait qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu veut. Et là, Jésus nous donne un exemple. C'est la volonté du Père qui doit être prioritaire à des décisions familiales, surtout quand elles ne sont pas bibliques. Fin de la parenthèse, on revient au message, je ne sais pas pourquoi je suis venu là-dedans, mais en tout cas j'y suis venu. Ensuite, Jésus continue en disant « L'expression « mon heure n'est pas encore venue ». Et le mot « heure » renvoie constamment dans les évangiles à l'œuvre de Jésus, à sa mort et à sa résurrection et à son ascension et toutes les conséquences qui vont en découler. Alors on peut se dire, mais quel est le rapport entre la situation présente, ce manque de vin, et puis la réponse de Jésus qui a l'air de faire référence à un événement qui se produira plus tard et qui a une portée décuplée par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre. Ici, il manque du vin dans cette noce. Alors que Jésus, dans sa réponse, lui fait allusion à l'instauration d'une ère, de l'ère du règne du Messie, donc à son propre règne, que les prophètes ont annoncé comme un temps où le vin allait couler en abondance. Je vous donne un seul exemple dans Jérémie 31, verset 12, où le texte nous dit « Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le vin nouveau, l'huile, le petit et le gros bétail. Leur vie sera pareille à un jardin arrosés et ils ne dépériront plus. » Voilà ce que l'on vit lorsque Jésus règne sur nos vies. Nous sommes comblés et nous ne manquons de rien. Et cette ère sera complète lorsque Jésus reviendra et qu'il règnera sur son peuple, et où le mal et toutes ses conséquences seront anéanties. Et tout ça, ça sera célébré par une noce qu'on trouve dans l'Apocalypse. R. E. Brown dira la chose suivante: Jean utilise fréquemment le terme « heure » pour souligner la place centrale qu'occupe Jésus dans l'histoire du salut. C'est l'heure de la passion de Jésus, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, conçue comme l'heure suprême dans la longue histoire de Dieu avec les hommes. Jésus a parfaitement raison de dire que l'heure de l'abondance du vin n'était pas encore arrivée, puisqu'il n'avait pas encore offert sa vie en sacrifice qui permet aux uns et aux autres qui placent leur confiance en lui d'être réconciliés avec Dieu et d'être au bénéfice de l'abondance de sa grâce. Et ce que Marie va dire aux serviteurs va traduire sa compréhension de ce qui se passe chez elle à ce moment-là. Elle va répondre: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Marie passe du statut de mère de Jésus, qui pense que Jésus lui doit quelque chose, à celui de disciple de Jésus, qui se place sous son autorité. Elle ne pouvait plus le considérer comme les autres mères peuvent considérer leur fils. Elle devait apprendre, comme toute personne, comme chacun d'entre nous, qu'elle doit venir à lui comme on s'approche du Dieu sauveur, comme on s'approche du Messie, du Dieu libérateur, celui qui a été promis. Le théologien Don Carson dira la chose suivante: Marie s'approche de Jésus en mère et il la reprend. Elle réagit en disciple et Jésus honore sa foi. Elle ne sait toujours pas ce qu'il va faire, mais elle lui a fait part du problème et lui fait confiance. Il dira encore: ni elle ni personne ne peut prétendre bénéficier d'un régime de faveur pour s'approcher de lui. Vous savez, il peut nous arriver en tant que chrétien, parfois égoïstement, je ne sais pas, mais que Dieu nous doit quelque chose. Puisqu'il est amour, puisqu'il est bon, et puis puisque je fais plein de choses pour lui, alors il se doit ou il se devrait de répondre à toutes mes sollicitations. Mais Jésus ne nous doit rien. Jésus ne nous doit rien. Mais en tant que disciples, nous devons nous placer et être attentifs à ce qu'il nous demande. Qu'est-ce que Jésus veut de chacun d'entre nous? C'est la question que nous devons se poser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? On l'a vu dans le point juste avant, Dieu désire s'investir dans nos vies. Alors oui, Dieu nous aime. Oui, il s'intéresse à nous. Mais il n'est pas le génie de la lampe d'Aladin qu'on frotte et où je peux lui donner mes trois vœux et il sera obligé de les exécuter. C'est nous qui sommes appelés à marcher en disciples, c'est-à-dire à nous laisser enseigner et façonner par lui. Dieu est notre père, Dieu est notre ami, Dieu n'est pas notre copain. Amen. Dieu est notre père, Dieu est notre ami, mais il n'est pas notre copain. Ça m'amène à notre troisième point ce matin. Ce signe nous enseigne que l'obéissance nous fait vivre le surnaturel de Dieu. On continue la lecture, versets 6 et 7. Or, il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus va ici donner des consignes à ceux qui servaient au mariage en leur demandant de remplir les 6 jarres de pierre. Il ne leur dit pas de mettre un petit peu d'eau au fond, mais de les remplir. Il s'agit de jarres qui pouvaient contenir 40 litres chacune et qui étaient destinées aux ablutions rituelles. Vous savez, dans le contexte des noces, elles servaient de lavage rituel pour les ustensiles et puis pour laver les mains des invités, afin de se purifier de toute souillure provenant de ce qu'ils avaient touché. C'est tout un message ici. Si les gens avaient appris que le vin qu'ils avaient bu venait de jarres destinées au rituel de purification, ils auraient été outrés, ils auraient été scandalisés. La symbolique derrière démontrait que l'on était en train de passer dans une ère nouvelle, celui de la fin de l'ordre ancien avec la purification rituelle et superficielle du judaïsme, pour entrer dans l'ère nouveau du Messie qui purifie et transforme les vies en profondeur, telle l'eau changée en vain. Alors ça pouvait être choquant pour les serviteurs dans ce mariage, puisqu'ils sont tous juifs, mais ils se sont exécutés, ils ont obéi. Vous Vous savez, l'obéissance marche avec la confiance. Je ne peux pas dire que je fais confiance à Dieu si je ne lui obéis pas. Faire confiance signifie que je crois que l'autre va être vrai avec moi, je crois que l'autre va être honnête avec moi, je crois que l'autre va être intègre avec moi, même quand je ne le comprends pas toujours. Si je suis sous l'autorité de quelqu'un en qui je fais confiance, alors je vais agir en conséquence de ce qu'il me demande. Si je crois que Dieu m'aime et que je crois que Dieu veut diriger et prendre soin de ma vie, je sais que ses demandes seront bonnes, même si je ne les comprends pas parfois. Si je n'obéis pas, ça révèle simplement que je ne crois pas vraiment que ce qu'il me demande est vraiment bon pour ma vie. Et ça, ça révèle une faille qui peut être là. Et cette faille, c'est que finalement, je ne lui fais pas réellement confiance. Je ne crois pas que Dieu est vraiment bon avec moi, ou peut-être il est bon avec les autres, mais avec moi, ma vie, elle est tellement compliquée qu'il y a un problème avec moi, ou il y a quelque chose qui ne marche pas entre Dieu et moi. Vous savez, si les serviteurs n'avaient pas fait ce que Jésus leur demandait à cet instant, ils seraient passés à côté de ce miracle puissant et n'auraient pas pu être témoins de ce que Jésus était capable de faire, mais aussi de l'intérêt qu'il portait à la réussite de ce mariage. Il n'aurait pas pu être témoin que Dieu est puissant, mais il n'aurait pas pu être témoin que Dieu s'investit personnellement dans nos vies et qu'il est celui qui répond à nos besoins. Amen. Jésus porte intérêt à notre vie, mais il porte aussi intérêt à la réussite de nos vies. Je crois que Dieu désire notre épanouissement et il sait ce par quoi on doit passer pour pouvoir le vivre. Et vous savez, c'est lorsqu'on vit les projets de Dieu pour nous que nous sommes pleinement à notre place, que nous nous sentons vraiment vivants. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de faire ce que l'auteur de la vie désire et souhaite de chacun d'entre nous. J'ai envie de lui dire, de nous dire ce matin, faisons-lui confiance pour voir sa provision et son intervention dans nos vies. Faisons-lui confiance. La vie de foi n'est pas une vie où j'attends que tout me tombe tout cuit dans le bec. Mais c'est une vie où je m'attends à Dieu par des gestes concrets. Ce miracle nous montre qu'il fallait que les gens croient et obéissent pour voir le miracle. Parfois, les chrétiens demandent des miracles dans leur vie pour croire. Mais c'est la foi qui ouvre la porte à l'intervention de Dieu. Vous savez, si nous voulons vivre la fin prévue par Dieu, nous devons accepter sa méthode pour la vivre. Si nous voulons vivre la fin des situations que Dieu a prévues, nous avons besoin d'accepter le processus que Dieu veut mettre en place pour pouvoir le vivre. Amen, merci frère. Dans ce miracle, Jésus fait ce qui est impossible. Mais les serviteurs doivent poser des gestes qui sont à leur portée. Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Il ne nous demande pas des choses qu'on est incapable de faire. Mais il nous demande de faire notre part. Et dans leur situation, c'était de puiser et de remplir. Puiser et remplir. Dieu fait sa part dans nos vies, mais nous avons la nôtre à faire. Et lorsque nous le faisons, la vie de Dieu jaillit. C'est mon quatrième point. Ce signe démontre que la vie avec Jésus est supérieure en qualité. On continue la lecture, versets 8 à 10. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » On voit ici l'étonnement de l'organisateur du repas. Les données recueillies de l'époque confirment que la plupart des hôtes servaient d'abord le bon vin et réservaient le vin ordinaire pour la fin du festin. On attendait en effet que les invités soient un petit peu émoussés pour servir le moins bon. Vous savez, au moment où on peut boire un petit peu de tout, quoi. Alors, c'est pas un encouragement à l'ivrognerie, hein, mais c'est juste pour vous expliquer le contexte. Et du coup, l'organisateur vient voir le marié et qui avait la responsabilité, on l'a dit tout à l'heure, de l'approvisionnement en boissons et en nourriture. Mais ce que lui ne sait pas, c'est que c'est Jésus qui est celui qui a permis d'avoir ce vin de qualité. Vous savez, nous, on peut multiplier des choses, essayer de produire des choses en quantité. Mais seul Dieu est capable de produire la qualité. Nous, on peut faire beaucoup de quantité, brasser beaucoup de choses, mais ça reste superficiel. Mais Dieu est capable de produire la qualité dans nos vies. Dieu est capable de produire la vie dans nos vies. L'intervention, la solution amenée par Jésus, elle est bien supérieure à celle que nous pouvons bricoler. Jésus rassasie pleinement les vies. Faire confiance à Jésus ne va pas gâcher ta vie, mon ami. Ça ne va pas diminuer ta vie, mais ça va la faire grandir en qualité. Ça va la faire grandir en qualité. Dernier point, ce matin, j'ai invité l'équipe à s'approcher. Ce signe nous démontre la gloire de Jésus. Verset 11 nous dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » L'objectif de ce miracle de Jésus était de démontrer à ses disciples sa gloire. Le terme gloire, c'est doxa, qui est utilisé à propos de la manifestation visible de la révélation de Dieu. Par ce miracle, Jésus révèle à tous qu'il est le Dieu créateur, qu'il est celui qui produit la vie. En Jésus, Dieu se révèle et Dieu révèle la divinité de Jésus par ce signe. Il est celui qui peut interférer dans le naturel par sa puissance. Amen. Oh là 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 là, on est dans une église pentecôtiste ce matin? Des gens qui croient que Jésus agit encore aujourd'hui? Amen. Sur internet, je ne sais pas qui nous suit. Dieu produit la vie. Le surnaturel de Dieu peut pénétrer, peut entrer dans le naturel. Il peut changer les choses. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'est pas. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas aujourd'hui, mais Dieu est celui qui produit. Tu peux commencer si tu veux. Il est celui qui change la nature même des choses. Et c'est ce que ce miracle dit. De l'eau, ça ne peut pas devenir du vin. Alors beaucoup ont essayé de dire qu'il y avait une petite manip, etc. Mais le texte nous dit clairement que c'est un miracle. Ceux qui ne croient pas vont essayer de chercher dans ce texte à dire qu'ils ont mélangé de la poudre avec de l'eau. Mais vous savez, quand on met de la poudre, je ne sais pas si... Est-ce que quand vous étiez plus jeunes, peut-être les plus jeunes parmi nous, vous achetiez, vous savez, on achetait de la poudre, on mélangeait avec de l'eau, on pouvait faire des expériences. Qui a déjà bu cette substance? Il y en a qui en ont déjà bu? En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez bu, mais c'est horrible. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais une machine, la machine du professeur Horribilus, ou je ne sais pas quoi, puis il fallait faire des trucs là. C'était horrible. De l'eau et de la poudre, ça ne fait jamais un bon vin. Un bon vin, il est travaillé. Et là, ce texte nous dit que c'est le meilleur des vins qui est arrivé. Parce que quand Dieu agit dans nos vies, la qualité de Dieu intervient. La vie de Dieu jaillit. Et on entre dans ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je veux le proclamer ce matin, et pour ceux qui nous regardent, il est celui qui peut changer ta vie. Par ce premier signe, il amène ses disciples à voir qu'il n'est pas un simple homme, qu'il n'est pas juste quelqu'un qui a de beaux discours ou un beau philosophe ou un beau penseur. Il est Dieu. On voit les disciples qui sont mentionnés au début de notre passage et à la fin. Et en fait, dans les textes hébreux, généralement, on fait une espèce de cône où voilà, on sait qui veut parler aux disciples parce qu'on les mentionne au début, ils étaient au mariage avec Jésus. Et à la fin, on nous dit, c'est là que ses disciples crurent en lui. L'objectif de Jésus ici était que ses disciples puissent saisir, que les serviteurs puissent saisir qu'il était Dieu, que sa mère aussi, mais pas les invités. Les invités n'étaient pas au courant. L'objectif de ce passage, c'était déjà de gagner les disciples proches. Et moi, je crois que Dieu, au travers de cette série, veut nous gagner, nous, déjà en tant qu'Église. Où est-ce qu'on en est dans notre foi que Dieu est capable d'agir? Vous savez, moi, je crois qu'on peut prier pour que cette maladie qui frappe notre nation se stoppe. Je crois qu'on peut demander à Dieu de nous apprendre aussi, au travers de cette maladie, à nous repenser, à nous réimaginer, comme les Églises ont dû le faire pendant cette période de 6 mois où il a fallu s'adapter à ce qui est en train de se passer. Notre Dieu veut nous interpeller particulièrement. Tout à l'heure, PS l'a dit, mais est-ce qu'on croit que la prière peut changer les choses? Est-ce qu'on croit que Dieu veut nous aligner dans nos temps de prière sur son cœur et sur ce qu'il veut, pour que, au travers de notre association avec lui dans la prière, la main de Dieu agisse et intervienne? Je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu qui agit parce que je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de mes parents, je l'ai vu dans ma famille. Et je crois que ce Dieu qui s'est révélé à ma famille dans les années 75, c'est toujours le même en 2020. Covid ou pas Covid, il est le Dieu qui intervient. Il peut intervenir dans n'importe quelle situation de nos vies. Si nous venons comme Marie, pas en disant à Dieu ce qu'il doit faire, mais en disant à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Et en disant, Seigneur, je crois que tu es capable d'intervenir, alors je viens avec confiance, je viens avec foi. Il est le Dieu qui change les choses encore aujourd'hui. Il est le Dieu qui change nos cœurs encore aujourd'hui. On l'a dit souvent ce matin, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on s'habitue à venir dimanche après dimanche pour écouter des messages, dire c'était bien, puis qu'il n'y a rien qui change dans notre vie. On est appelé à devenir des praticiens de la parole. Pas juste nous borner à écouter. Vous savez, on est des champions, on connaît tous les versets, on connaît plein de choses. On a la tête bien remplie. Mais qu'est-ce qu'on vit? Quand je vois qu'il y a certains chrétiens enfermés dans des containers à l'autre bout du monde à cause de leur foi en Jésus, qui n'ont même pas le privilège d'avoir 10 Bibles comme nous avec tous les commentaires, mais qui par leur vie en pratique le saisissent. Je crois que Dieu veut nous appeler d'une vie de consommateur à une vie de disciple. Et je crois que c'est vraiment le challenge de Dieu pour l'épi, pour les prochains mois. De passer de consommateur à disciple, où le moi n'est plus au centre, mais où Jésus est au centre. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? En sachant qu'il est celui qui prend soin de nos besoins, comme on l'a dit, à qui on peut déverser nos cœurs, parce qu'il est celui qui intervient encore aujourd'hui. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous découvrons que Jésus veut booster et stimuler notre foi. Où que nous soyons, là où on en est dans notre vie personnelle, je crois que la période que nous vivons est propice à ce que, comme Marie, nous puissions faire part de ce qui nous arrive à Jésus, mais aussi de nous aligner sur ce qu'il nous demande de faire, de nous laisser conduire et diriger par lui. Jésus s'intéresse à nous, il s'intéresse à nos réalités, il s'intéresse à nos difficultés. Il désire, je crois, nous accompagner, nous porter et se manifester dans nos incapacités, mais aussi de se glorifier. On peut lui faire confiance. Il est fidèle. Amen. Alors, est-ce qu'on peut l'inviter ce matin, alors qu'on va prendre ce chant Vin Nouveau? C'est un nouveau chant. En tout cas, je ne pense pas qu'on l'ait fait à l'église. Et qui lui dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et je crois que tu es capable de produire un vin nouveau dans mon cœur. Je crois que tu es capable de produire un vin nouveau dans ma situation. Je crois que tu es capable de produire un vin nouveau dans notre église. Est-ce que nous voulons être cette église qui vit le réveil de Dieu? Vous savez, le réveil, c'est premièrement pour nous. Les autres, ils sont morts à la fois. Eux, ils ont besoin de résurrection, ils ont besoin de la grâce. Mais ceux qui ont besoin d'être réveillés, c'est chacun d'entre nous. Et je crois que c'est ce qu'il y a sur le cœur de Dieu, pour notre église particulièrement. Dieu veut un réveil, qu'on sorte de notre bien-pensance religieuse pour entrer dans cette vie de foi et de confiance en celui qui a donné sa vie à la croix parce qu'il nous aime, en celui qui a payé le prix, qui est ressuscité et qui a décidé de venir habiter en nous par son Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple enflammé de l'Esprit de Dieu ce matin dans ce lieu? L'Esprit de Dieu est avec nous, celui qui a sorti Jésus de la tombe, il est là ce matin. Et il est capable de produire cette vie en nous. Mais nous avons besoin de le laisser agir. Moi, j'ai envie de dire ce matin, Seigneur, je veux lâcher les rênes. Et je veux vraiment te laisser aux commandes. Je veux sortir de tous mes raisonnements, aussi schématisés qu'ils peuvent être parfois dans nos esprits, avec toutes les règles bien calées. Mais dire, Seigneur, au travers de ce qu'on vit, je veux vraiment te laisser être le roi des rois, celui qui règne. Invitons-le à faire un vin nouveau. Et je veux vous inviter à prendre ce chant comme une prière. Si c'est votre cœur ce matin de dire, oui, Seigneur, fais un vin nouveau dans ma vie, dans mon église, dans ma famille, dans mon foyer, de vous mettre debout à votre place, alors que vous allez vous approprier ces paroles et qu'on laisse vraiment le Saint-Esprit souffler. Seigneur, on te prie ce matin pour un temps de fraîcheur, un temps de rafraîchissement au sein des circonstances que nous vivons. Nous croyons que ta main n'est pas trop courte encore pour agir. On te prie pour notre ville, on te prie pour notre département, mais aussi pour notre nation qui a besoin de toi. Seigneur, on te demande que cette maladie soit stoppée. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable d'arrêter, Seigneur, toutes sortes d'épidémies, de pestes. Et nous croyons qu'aussi au travers de ces circonstances, tu peux nous amener à un temps de cœur à cœur avec toi. Ce matin, nous voulons, comme Marie, passer du statut de ceux qui donnent des ordres à ceux qui disent, Seigneur, je décide de t'obéir. Je te prie d'encourager ce matin ceux qui passent par des temps de difficulté, ceux qui ont vraiment besoin d'un vin nouveau dans leur vie. Tu es celui qui change l'eau en vin. Tu es celui qui change les situations. Et avec eux, on veut se joindre à leur prière parce qu'il y en a, ça fait des années qu'ils prient et qu'ils ne voient pas forcément les fruits. Mais on veut croire, Seigneur, que tu ne les as pas abandonnés.
On veut croire que tu es en contrôle, que tu es en contrôle des situations, Seigneur. À toi la puissance et la gloire, et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand Amen.
Merci pour ce temps passé dans ta présence. Et merci parce que oui, tu es le Dieu des miracles. Et tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, que ces paroles reçues ne soient pas dispersées alors qu'on va rentrer chez nous, mais qu'elles puissent rester gravées au plus profond de notre cœur et être comme un leitmotiv pour toute cette nouvelle semaine qui démarre. Je te prie pour celui qui a reçu une parole particulière, qu'il soit encore encouragé, boosté, que tu confirmes ta parole. Merci parce que Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Et nous te bénissons de ce que tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Amen. Amen. Merci au pasteur Raymond Pierre pour son cœur, pour ce qu'il nous a partagé. Je crois qu'il y avait un message précis pour l'Église ce matin. Merci à l'équipe de louanges. Merci aussi à toute l'équipe technique qui est derrière, qui travaille pour nous. Ils sont venus encore cette semaine pour réinstaller les lumières, pour que ça marche mieux. Des fois, on essaye de faire des ajustements pour que vous soyez bien et pour que derrière votre caméra, vous soyez bien également. Alors, je veux vraiment les remercier. Tiens, est-ce qu'on peut les applaudir et vraiment leur dire merci? Et merci aussi à l'équipe d'accueil qui fait un travail extraordinaire, dimanche après dimanche. Oui, on peut les applaudir également, c'est chouette. Voilà, le culte touche à sa fin. Je vous rappelle cette annonce importante, c'est que la semaine prochaine, on sera le 20 septembre, ça sera l'Assemblée Générale. Vous pouvez vous inscrire au culte. Beaucoup sont venus me demander, mais on ne s'inscrit pas à deux cultes d'affilée. Vu qu'il y a encore de la place, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, même la semaine prochaine, si vous êtes venu encore aujourd'hui, c'est pas un souci. On a de la place, on peut encore accueillir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, Assemblée Générale la semaine prochaine. Et un culte qui va continuer sur cette thématique des 7 signes qui stimulent notre foi. Alors, si vous voulez la suite, il faut venir la semaine prochaine. Je pense que ça va être vraiment un bon moment. Ok, merci à tous. Remercie tous les internautes d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis, de nous avoir encouragés par votre présence, par vos petits messages sur le chat aussi. C'est toujours un bonheur de pouvoir vous lire. On vous souhaite un bon dimanche à chacun et que Dieu vous bénisse et à très bientôt.